VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La communauté internationale, de nouveau au chevet de la Centrafrique, jeudi, ce sera à Bruxelles, la capitale de la Belgique, pour financer le retour de la paix dans le pays. Comme pour l'Afghanistan, la conférence des donateurs de Bruxelles doit annoncer des aides financières sur plusieurs années pour Bangui. La Centrafrique a pu élire dans un calme relatif en début d'année un nouveau président à la personne de Faustin Archange Touadéra, mais le président centrafricain à Bruxelles lui-même depuis dimanche se trouve à la tête d'un État sans armée ni administration et dont une large partie du territoire se trouve sous le contrôle de groupes armés. En République démocratique du Congo, bientôt un nouveau premier ministre issu de l'opposition pour mettre en application l'accord politique du 18 octobre dernier sur le report de la présidentielle. Mais le rassemblement autour de Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, a rejeté cet accord et exige le départ de Joseph Kabila à l'expiration de son deuxième mandat le 20 décembre. Le Conseil épiscopal s'est retiré de cet accord qui viole le prescrit de la Constitution sur le mandat présidentiel. Le nouveau gouvernement va-t-il pouvoir contenir cette crise politique profonde? Éric Manirakiza a joint à Bruxelles le coordonnateur du mouvement Filimbi, Floribert Anzolomi.
Nous sommes vraiment assez tristes de constater que nos inquiétudes de départ sur le glissement sont malheureusement en train de se confirmer. En complicité, encore une fois, malheureusement, avec certains leaders politiques qui se présentaient comme étant de l'opposition, qui ont été simplement récupérés par la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, donc, on arrive à une solution qui n'en est véritablement pas une, parce que le véritable problème de la crise congolaise n'a jamais été un problème technique sur l'organisation des élections, mais bien un problème lié au départ de l'actuel président à la fin de son mandat le 19 décembre. Donc ce gouvernement n'aura aucun impact ou vraiment très peu d'impact positif sur la suite de la crise. Donc très clairement, ce gouvernement ne règle absolument rien. La population congolaise, croyez-moi, est déterminée à agir pour empêcher que ce coup d'État constitutionnel soit matérialisé le 19 décembre. Je pense même que ça risque d'aggraver la situation.
Le rassemblement autour de Tshisekedi ne reconnaît pas cet accord.
Je pense que M. Tshisekedi se comporte comme la population congolaise. Le véritable débat aujourd'hui porte sur le départ du président Kabila à la fin de son mandat. Si aujourd'hui nous acceptons, et le président Tshisekedi également, que le président Kabila se maintienne au pouvoir au-delà de son mandat, clairement, nous acceptons de briser notre constitution, nous acceptons de la violer, nous acceptons de fonctionner en dehors d'une règle sur laquelle la grande majorité des Congolais s'était accordée. Si dans 6 mois, le président Kabila et sa majorité reviennent en disant « Écoutez, nous avons besoin d'un autre accord », qu'est-ce qui pourra finalement empêcher qu'un autre accord vienne se mettre en place pour que le président Kabila se maintienne définitivement au pouvoir? Donc non, je pense que la position du président Tshisekedi est même assez responsable. Il dit ceci, il dit « Aujourd'hui, on nous a mis dans une situation difficile ». Il n'est plus possible d'organiser les élections dans les délais. Nous sommes d'accord de discuter avec nos frères de la majorité pour trouver un cadre, une solution à cette situation que vous avez créée, vous, la majorité. Mais la seule condition, c'est que la responsabilité qui incombe au président Kabila soit clairement actée et que le président Kabila quitte le pouvoir au plus tard le 19 décembre en tant que garant de la Constitution. Nous disons oui. Très bien, nous pouvons trouver un cadre pour organiser l'élection présidentielle dans le délai le plus court possible, en 2017. Mais très clairement, le président Kabila ne peut plus continuer à diriger la République démocratique du Congo pendant la période qui va précéder cette élection.
Il y a donc ce bras de fer entre la majorité et une grande partie de l'opposition et la société civile. Quelles sont les perspectives selon vous?
C'est un bras de fer entre, j'aimerais le présenter autrement, c'est un bras de fer entre la majorité de la population congolaise et une minorité de personnes autour d'un individu et qui sont surtout en train de tromper cet individu et de lui donner l'impression que, avec des petits calculs politiciens, il pourra gérer la situation, il pourra calmer la population, ce qui ne sera pas possible. Les perspectives, malheureusement, aujourd'hui, écoutez, après le passage de la mission du Conseil de sécurité, nous pensions que, peut-être, par miracle, le président Kabila allait pouvoir, justement, avoir un sursaut. Malheureusement, vous l'avez peut-être suivi, celui qui représentait, en tout cas, le diplomate anglais, a immédiatement tweeté après la rencontre qu'ils ont eue avec le président Kabila, qui leur a fait comprendre que, oui, aujourd'hui, la Constitution ne permet pas de briguer un troisième mandat, mais cette constitution peut être révisée. Donc en sortant de là, ils ont très bien compris que l'intention claire du président Kabila est de sortir du cadre constitutionnel pour pouvoir par la suite modifier la constitution. Les perspectives sont donc au jour d'aujourd'hui très 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 mauvaises, malheureusement. Mais le plus important, c'est la population congolaise, les citoyens congolais, qui restent déterminés à barrer la route, en fait, à cette tentative de prise de pouvoir par la force. Et nous disons qu'après le 19 décembre, le 20 décembre, le président Kabila sera considéré comme un putschiste.
Analyse de la situation en RDC avec Floribert Anzoloni, joint à Bruxelles. Le président Macky Sall du Sénégal est le premier chef d'État africain à venir à Washington DC depuis la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Le leader sénégalais a confié à Voix Afrique ce qu'il pense de l'élection du milliardaire new-yorkais.
Le monde entier a suivi la campagne de M. Trump. Cela a suscité des réactions vives qui étaient compréhensibles. Mais je crois que les paroles d'un candidat ne correspondront certainement pas aux actes d'un président. Parce que le candidat, c'est quelqu'un qui est à la recherche des suffrages, qui peut essayer de plaire à l'électorat, bon, qui essaye de faire du marketing, de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre parfois. Peut-être que ça ne va pas être du tout les actes que le président va poser, parce que tout acte qu'il posera aura une conséquence immédiate et les réactions vont suivre immédiatement. Et aucun pays ne peut se permettre de se mettre au banc de la communauté internationale, fût-il les États-Unis d'Amérique. Attendons de voir. Donnons-lui quand même une présomption d'innocence et permettons qu'il s'installe et qu'il pose des actes avant que vraiment nous puissions nous apesantir davantage sur ce qu'il va faire ou ne va pas faire.
Le président Macky Sall du Sénégal, le torchon brûlant de Bujumbura et le médiateur de l'ONU, Jamal Ben Omaha, le gouvernement burundais, a demandé son remplacement, mais le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, a affirmé que M. Ben Omaha gardait toute la confiance du secrétaire général. Il a déclaré que ce dernier reste en fonction. En juin 2015, son prédécesseur Saïd Djinnit avait jeté l'éponge sur demande de l'opposition burundaise. Près de 6 ans après sa révolution, la Tunisie va publiquement donner la parole aux victimes de la dictature, une étape historique de la transition démocratique. C'est avec une dizaine de témoignages retransmis en direct sur plusieurs radios et télévisions jeudi et vendredi que les Tunisiens vont pour la première fois être confrontés à l'étendue des violations commises ces dernières décennies, principalement sous les régimes du père de l'indépendance, Habib Bourguiba, entre 1957 et 1987, et du président déchu Zine El Abidine Ben Ali, entre 1987 et 2011. Ces séances organisées par l'instance Vérité et Dignité, IVD, seront l'occasion pour l'opinion publique tunisienne de savoir ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi il ne faut pas que ces violations se reproduisent. Créé en 2013, l'IVD a pour mission, en 5 années maximum, d'identifier les responsables des violations des droits de l'homme commises entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 2013. Elle doit faire en sorte qu'ils rendent des comptes, mais aussi réhabiliter les victimes et leur octroyer réparation.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Barack Obama est arrivé mardi matin, ce matin donc à Athènes, où il va passer 2 jours avant de se rendre à Berlin, son dernier voyage officiel en Europe en tant que président des États-Unis. Monsieur Obama doit rencontrer le président grec, puis le premier ministre Alexis Tsipras avant une conférence de presse avec ce dernier. Mercredi, il se rendra à l'Acropole, puis va prononcer un discours sur les défis de la mondialisation avant de rallier Berlin en Allemagne. Le gouvernement britannique n'a toujours pas arrêté sa stratégie sur le Brexit et l'ampleur de la tâche qui l'attend pour sortir de l'Union européenne pourrait nécessiter jusqu'à 30 000 embauches supplémentaires, affirme un rapport publié aujourd'hui par le Times. Le rapport intitulé « Mise à jour sur le Brexit » note notamment que le gouvernement pourrait avoir besoin de 6 mois supplémentaires. Ce délai serait dû à l'extrême complexité du dossier, aux divisions au sein du gouvernement sur l'orientation à donner au Brexit, mais aussi à la propension de Theresa May, la première ministre, à ne pas déléguer un style de gouvernement que le rapport juge difficilement compatible avec la tâche titanesque que constitue la sortie de l'Union européenne. Pour la 3e fois en 24 heures, une attaque aérienne a pris pour cible un hôpital en Syrie. Aux premières heures de mardi, une frappe aérienne a visé celui de la localité d'Awajel, à l'ouest de la grande ville d'Alep, tuant au moins une personne, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'armée de l'air syrienne, appuyée par les avions russes, a intensifié ces derniers jours ses opérations contre les villages et de petites villes de province d'Alep et d'Idleb. Jean-Roger Billon, dans 50 minutes, un nouveau journal avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.